marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La radiodiffusion française vous invite à écouter...
Port-Royal, après la destruction de Port-Royal.
Oserais-je me plaindre à vous-même, mon Dieu ? Où sont vos anges ? Où est votre colère ? Des hommes en qui l'ivresse a éteint tout sentiment d'humanité règnent souverainement au milieu de ce cruel carnage. Des corses que l'on tire de terre, les uns entièrement consumés, les autres demi-pourrissent, les autres dans leur entière et tout cela confondu pêle-mêle en un gros monceau dans l'endroit où est troué le chapitre, pour ensuite être transportés à Liers avec des charrettes. Les fossoyeurs tous pris de boissons qui ne prennent pas la peine de lever un corps entier quand ils le trouvent, mais qui le hachent à coups de bêche. Ils arrachent, ils déchirent, ils mettent en pièces, ils entassent, ils brisent, mon Dieu, les os de votre peuple.
Pour disperser les 22 filles qui vivaient encore au monastère de Port-Royal des Champs, Louis XIV avait déjà, en 1709, déployé des moyens policiers dignes d'un coup d'État. Et l'année suivante, il fit démolir les bâtiments et exhumer les tombes des religieuses et de leurs familiers. La monarchie absolue avait identifié Port-Royal des Champs à ce qu'elle nommait le jansénisme, et le jansénisme à un parti d'opposition, il ne devait pas en rester pierre sur pierre. L'exhumation demeura dans les mémoires comme une profanation. Bien plus tard, Chateaubriand écrivit qu'elle préfigurait celle des tombes des rois eux-mêmes en 1793. Pour ses fidèles, Port-Royal, c'était en effet l'équivalent de Saint-Denis. L'équivalent, mieux encore, du temple de Jérusalem que vient dévaster le persécuteur. Et Versailles, géographiquement si proche, c'est Babylone. Alors sans doute cette lecture est-elle mythifiée, mais c'est ainsi que s'est construit le souvenir et il mérite d'être respecté. Aujourd'hui, Port-Royal des Champs est devenu un musée, mais qui reste un peu à l'écart. Si on n'a pas de voiture, le mieux c'est de descendre à la gare de Saint-Rémy-les-Chevreuses, de prendre à pied le chemin Racine, qui peut être boueux. Beaucoup de jeunes de la région connaissent d'ailleurs cet itinéraire, à l'instar des élèves des petites écoles du monastère au temps de Racine. Mais cela n'est ni rationnel ni productif. Dans les bureaux du ministère de la Culture, saisis par la fièvre entrepreneuriale, est donc né le projet de rattacher le plus petit musée d'État, Port-Royal, à, je vous le donne en mille, à Versailles, un établissement qui, lui, est organisé pour produire du cash. Cette brillante idée commerciale est inconcevable pour tous ceux qui sont attachés au jansénisme comme à un moment considérable de l'histoire de la liberté et, au premier chef, à notre témoin de ce vendredi, Bernard Gazier.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bernard Gazier, alors, vous pourriez, bonjour.
Bonjour.
Vous pourriez venir participer à nos émissions sur l'emploi, le modèle social. Vous êtes professeur émérite d'économie à Paris 1. Mais non, vous venez en tant que témoin d'une histoire, celle de Port-Royal, qui est liée intimement à votre famille, dont on va dire que vous êtes le représentant de la cinquième génération jansénisante. 1814... Vos aïeux, Louise et Gabriel, orphelins, passent des vignes de Taverny, au nord de Paris, à Port-Royal, où ils sont accueillis par des petits groupes. Il en subsistait, qui était comme une résurgence du jansénisme.
Oui, ce sont en fait deux ordres. D'une part, les sœurs de Sainte-Marthe, qui ont d'ailleurs perduré jusqu'à la fin du XIXe siècle, et les frères de Saint-Antoine, frères Tabourin, qui, eux, ont disparu un peu plus tôt. Et alors, tout simplement, ces deux très jeunes enfants ont été confiés par une sœur, sœur Hilaire, qui en fait était sœur de Sainte-Marthe, d'une part la fille aux sœurs de Sainte-Marthe, et d'autre part le garçon au frère Tabourin. Donc les deux ont été plongés, dès leur enfance dramatique, dans des milieux jansénisants ou post-jansénisants.
Et Gabriel, votre aïeul, s'est marié avec Scholastique, et ils ont vécu tous les deux, heureux et pieux. Alors comment disait Scholastique du petit milieu jansénisant qu'ils fréquentaient tous deux, c'est la chrétienté.
Oui, alors ils s'appelaient de ce nom, qui est certainement légèrement exagéré, et ils se considéraient comme les seuls vrais chrétiens, c'est-à-dire qu'ils étaient les héritiers, alors pas du tout doctrinaires, hein, les questions de grâce efficace et de grâce suffisante, les conflits avec le Parlement ou le roi, c'était pas du tout leur affaire. Ils voulaient être des chrétiens et ils correspondaient assez bien à la fameuse définition « qu'est-ce que c'est qu'un janséniste ?» C'est un chrétien fervent qui n'aime pas les jésuites.
Mais il y avait une manière de se distinguer pour ce petit reste, de se tenir à la messe, devant les
sacrements.
Oui, alors
ils étaient très dévots, très assidus, en retrait. Alors ils chantaient, hein. Pour eux c'était une nécessité de chanter, ils communiaient rarement, ça c'est la fameuse histoire de la fréquente communion, et donc des pratiques de dévotion à la fois très intense et très discrète.
Tout à l'heure, vous parlerez en tant que président de la société de Port-Royal et vous nous direz ce qu'est cette société qui est d'ailleurs à partie double. Vous pourriez parler en théologien, mais enfin, j'ai plutôt vous faire parler en sociologue. C'est un milieu, le jansénisme, exigeant, élitiste, dont le cœur battant, c'est l'abbaye de Port-Royal des Champs, un monastère de femmes, d'obédience cistercienne, qui s'est réformé dès le début du XVIIe siècle dans le sens d'une plus grande austérité, et qui attire des dévots de bonne famille, souvent même du meilleur monde, avec un caractère intellectuel très marqué, les solitaires du désert. Bon, tout ça c'est juste jusqu'ici.
Oui, tout à fait.
En même temps que se développait ce milieu et ses ramifications, la chrétienté était traversée de discussions sur la part de la grâce dans le salut. Les discussions sont devenues controverses et s'est constitué un soupçon d'hérésie, ce qui fait que les autorités politiques et ecclésiastiques ont voulu obliger les membres du clergé, y compris les religieux et les religieuses de Port-Royal, à signer des formulaires sur les 5 propositions qui étaient considérées justement comme n'étant pas orthodoxes.
Oui, alors une chose quand même sur justement ces différents groupes, ces accusations d'hérésie. En fait, c'est ce qui se passe lorsque une agitation culturelle, religieuse, spirituelle se produit. Et je vais donner un exemple totalement différent qui montre de quoi il s'agit. C'est l'excommunication réciproque des groupes marxistes, bolcheviques, kautskistes, léninistes, tous en train de s'éjecter les uns les autres. Eh bien, c'était un peu la même chose, parce qu'il y avait l'oratoire avec Bérulle, d'autres groupes, et alors avec à chaque fois des enjeux spirituels et des enjeux de pouvoir, et donc finalement une guerre féroce pour l'influence. Alors, c'est cette guerre que les jansénistes ont d'abord gagnée, en attirant énormément de monde, en suscitant des vocations, y compris d'ailleurs des vocations qui choquaient. Par exemple, un jeune avocat très brillant d'une très bonne famille, promis à une carrière express, et qui du jour au lendemain dit « j'arrête de prêcher, je ne fais plus rien de tout ça, j'abandonne tous mes biens et je vais à Port-Royal ».
Alors ça c'est le temps où le courant est mis sur orbite, voilà, et puis après il est mis sous surveillance.
Voilà, et alors à ce moment-là est arrivé effectivement un branchement dont on n'a jamais très bien su où il se passait réellement. Il y avait Saint-Cyran, qui était un grand directeur spirituel, qui était relativement proche de Jansénius, théologien de Louvain, et c'est finalement Jansénius qui a été condamné, mais pour atteindre Saint-Cyran, qui en fait était considéré comme un opposant à Richelieu, et en tout cas Richelieu voulait absolument le neutraliser. Alors d'où l'extraction, si je puis dire, de 5 propositions. Alors ça, c'est quelque chose de totalement surréaliste pour nous aujourd'hui. Imaginez, vous avez un bouquin qui fait 1000 pages, qui est
L'Augustinus,
énorme, L'Augustinus, publié après la mort de Jansénius en 1640, et de ce bouquin de 1000 pages, eh bien, des lecteurs pas excessivement bienveillants ont cherché à extraire 5 propositions, au début d'ailleurs il y en avait 7, on ne savait pas très bien lesquelles, enfin ça a beaucoup bougé cette affaire-là, ils ont dit ça c'est hérétique, on va le faire condamner, et comme ça on va coincer les jansénistes. Alors d'où le formulaire. Le formulaire est en fait un document écrit dans lequel les personnes que l'on veut soumettre s'engagent à dire « tout ça c'est hérétique, je rejette les 5 propositions qui sont dans l'Augustinus et qui sont taf 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 ». Or, elles n'y étaient pas, puisque c'est en fait une sorte d'interprétation, simplification, synthèse, et donc il y avait cette fameuse distinction du fait et du droit.
Que veut faire valoir systématiquement
l'abbesse de Port-Royal, quand vient, nous sommes dans la pièce de Monterland, Port-Royal, le visiteur, inspecteur apostolique.
L'assemblée des évêques à la suite des bulles de deux papes décrète un formulaire que chaque personne ecclésiastique doit signer, par lequel elle se soumet à toute décision du Saint-Siège. Convenez qu'un archevêque de Paris est dans son rôle en exigeant que vous, religieuse de Port-Royal, vous signiez ce formulaire.
Il y aurait beaucoup à dire, mon père, et plus que je n'en puis dire ici.
Parlez plus haut.
Monsieur l'archevêque n'a-t-il donc pas raison ?
Non, non, mon père, il n'a pas raison. Enfin, il a raison dans une certaine mesure.
Expliquez-vous.
Je suis venu en religion pour garder le silence avec le monde, non pour l'instruire.
Insolente !
Les religieuses vont refuser de signer le formulaire numéro 1, numéro 2, numéro 3, tel quel. Et elles vont se retrouver, certains moments, privées de sacrement, d'autres moments, privées de renouvellement, toujours sous haute surveillance, jusqu'à la destruction finale du monastère. Qu'est-ce que vous appréciez, vous, Bernard Gazier, cinquième génération de la famille Gazier, dont on parlera plus longuement tout à l'heure, dans ce comportement des religieuses ou des amis des religieuses ?
Ce que j'apprécie d'abord, c'est l'incroyable indépendance d'esprit. À une époque où les femmes, en général, ne s'exprimaient pas sur les sujets de théologie, et finalement ne s'exprimaient sur très peu de choses, ni la théologie, ni la politique, et celles-ci, eh bien, vont dire, en toute humilité apparente, eh bien non, ça, nous le rejetons. Il y a donc une sorte de liberté de la libre pensée qui est ici tellement criante et manifeste. Alors, elles se sont faites sermonner. On disait « Vous n'êtes qu'une petite opiniâtre !» On disait des choses comme ça. Et on a dit « Ces filles sont pures comme des anges, mais orgueilleuses comme Lucifer. » Au-delà de ça, ce qui m'intéresse et ce qui me touche, parce qu'après tout, toutes ces histoires de grâce, c'est quand même, il faut le dire, désuet et recuit. Hein. Il y a quelque chose de repoussant un peu dans toutes ces histoires. Mais en fait, ce qui est très attachant, c'est que c'était des gens qui étaient terriblement inquiets. Ils étaient inquiets face à la modernité. Finalement, voilà, on est dans une période où il y a, autour d'un monastère, tout un groupe de gens cultivés qui viennent pour chercher le sens de la vie. Donc, à quoi bon le savoir, l'érudition, la connaissance, ou même le pouvoir, si Dieu ne m'aime pas ? Et donc, cette recherche de sens me touche, et elle, évidemment, pour eux, elle s'accompagnait d'une certitude qui, elle, me touche moins, parce que je suis peu religieux, c'est qu'ils étaient sûrs que Dieu existait. En revanche, ils n'étaient pas sûrs que Dieu les aime, et d'où cette inquiétude majeure qui les rend très attachants.
La destruction du monastère ne va pas mettre fin au jansénisme. Le jansénisme va fleurir dans des zones réservées, dans un journal qui s'appelle Les Nouvelles Ecclésiastiques, dans le public populaire, à la faveur des miracles qu'il peut provoquer, et va devenir, au XVIIIe siècle, de plus en plus politique. Sainte-Beuve disait, c'est drôle, le jansénisme, on peut y adhérer en n'ayant pas de dogme, ni peut-être de religion. Ce qui semble être votre cas, alors.
Alors, pas au sens de Sainte-Beuve, bien sûr, mais c'est vrai que l'indépendance d'esprit est une arme à double tranchant. Hein. C'est un petit peu comme les protestants. On veut voir les Écritures par soi-même. On veut juger par soi-même. On ne veut pas dépendre du pape. C'est d'ailleurs fondamentalement ce qu'on leur a reproché. Ils étaient contre le pape, hein. Ils étaient gallicans, et ils étaient contre le roi, puisque le roi les opprimait. Donc, ils étaient finalement dans un foyer d'indépendance d'esprit qui n'est pas si loin, finalement, de la libre-pensée. Il y a là une ambivalence énorme. Alors, il est vrai que les jansénistes ont toujours dit qu'ils étaient là pour former des vrais chrétiens, etc. Ils l'ont toujours revendiqué. Mais c'est vrai que cette indépendance d'esprit a pu être perçue comme étant, finalement, le début d'une laïcisation du monde.
Enfin, une libre-pensée qui n'accorde pas à la Semaine Sainte la même valeur négative que les mouvements laïcistes dont vous parlez. On va passer les leçons ténèbres du Vendredi Saint de Marc-Antoine Charpentier. Beaucoup d'artistes, des peintres comme Champagne étaient proches du mouvement janséniste. Les jansénistes ont vécu la persécution comme une passion, dont peut-être le miracle, de temps en temps, permettait de sortir. Ils croyaient beaucoup dans la vertu de la sainte épine de la couronne du Christ le Vendredi Saint.
Je
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Port-Royal, après Port-Royal, aujourd'hui avec notre témoin qui est Bernard Gazier, président de la Société de Port-Royal. Qu'est-ce à quoi, on le saura tout à l'heure. Le jansénisme, ou le post-jansénisme, pendant la Révolution, est intéressé par ce qui se passe, séduit par l'expérience de l'Église constitutionnelle, hostile en revanche après au Concordat, où les prêtres de l'Église constitutionnelle, ceux qui avaient prêté serment, se sont vus réintégrés, pour certains d'entre eux, dans l'Église catholique. Alors nous voilà dans les années 1800-1820. Le petit Gabriel Gazier, première génération de votre famille, devient un homme pieux. Et la deuxième génération Gazier, au milieu du 19e siècle, va investir tout un travail de recherche, de mémoire, avec la constitution de ce qui deviendra la Société de Port-Royal. Et alors là, il y a un personnage, votre aïeul Augustin, un modèle pour un professeur à la Sorbonne comme vous.
Bien sûr.
Il a été d'ailleurs professeur à la Sorbonne.
Tout à fait. Il a été nommé professeur la dernière année de sa vie parce que comme il était Thala, hein, c'est-à-dire ceux qui vont Thala, Metz, eh bien dans le milieu laïque de la Sorbonne, c'était très mal vu. Et cependant, il était en Sorbonne, et donc il représente l'aboutissement classique d'une démarche d'ascension sociale en deux temps. Hein. Le père est instituteur, et le fils, normalien, devient professeur d'université.
Oui, mais c'est un style de vie, Augustin. C'est pas de spectacle, pas de voyage, le cabinet de travail couvert de gravures port-royalistes, où on s'enferme le soir.
Tout à fait, mais aussi de l'humour.
Alors, il riait avec ses amis en les emmenant dans une bibliothèque dont il avait constitué l'armature, gérée par ce qui va devenir la Société de Port-Royal, rue Saint-Jacques à Paris, une bibliothèque longtemps invisible, demi-secrète. Sainte-Beuve n'y a jamais mis les pieds, je crois même qu'il en ignorait l'existence. Mais maintenant, elle est davantage ouverte, en tout cas à Franck Olivard, qui interroge Fabien van der Mark, le bibliothécaire du 169, allez, je donne l'adresse, rue Saint-Jacques.
Alors vous êtes à la bibliothèque de la Société de Port-Royal. C'est une bibliothèque qui effectivement ressemble un peu à un grenier de famille. Vous êtes actuellement donc sous le masque mortuaire de Pascal, dans la ce qui peut être perçu de façon un peu morbide, mais bon, Pascal a été un personnage extrêmement important dans l'histoire de Port-Royal. Ça sent la cire, le cuir, le bois. C'est le charme du livre ancien. Une bonne partie de nos fonds sont constitués de livres anciens. Je vais prendre cet ouvrage par exemple. Il s'agit d'un recueil factice qui nous vient du fonds Lepage, un avocat du XVIIIe siècle, qui a constitué des dossiers documentaires extrêmement fouillés sur des thématiques particulières, en particulier tout ce qui est lutte des parlements contre la monarchie absolue. Et dans les recueils Lepage, on peut avoir jusqu'à 800 pièces reliées ensemble. On peut avoir parfois des cartes à jouer, on peut avoir des échanges de correspondances. Aujourd'hui, ça serait quelqu'un qui irait jusqu'à relier ses post-it. Hein.
Alors Lepage, c'est le 18e, mais dès les années 1650, le jansénisme a conservé des documents qui faisaient mémoire de son mouvement. Libelles, chansons, tracts, dirait-on, aujourd'hui, se sont multipliés au 18e siècle. Et alors le but d'Augustin Gazier de la Société de Port-Royal a été de collecter tout cela, et tous les livres fondateurs aussi.
Tout à fait. Il a beaucoup voyagé et rapporté des livres. Et une fois, il a même rapporté les ossements d'une personnalité janséniste.
Ça, c'est votre manière humoristique de parler du voyage.
Mais absolument, parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il est rentré chez lui avec cette valise, et puis par mégarde, elle a été ouverte par une personne qui n'était pas au courant du voyage, et qui a poussé des hauts cris, en voyant évidemment les tibias, enfin, etc. Donc, ça fait partie des histoires de la famille. Mais, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Augustin a pu finalement réconcilier deux choses. Il y avait d'une part de l'argent, parce qu'en fait, comme c'était déjà opprimé, il y avait des cachettes, il y avait des secours, il y avait donc toute une série de réseaux financiers. Et d'autre part, il y avait des livres qui étaient mis en sécurité. Eh bien, il a utilisé l'argent qui était encore disponible pour finalement mettre les livres à l'abri. Et c'est à cela que l'on doit l'existence sous sa forme actuelle de la bibliothèque de Port-Royal.
Alors, la Société de Port-Royal, c'est combien de membres, la Société de Port-Royal?
Alors, la Société de Port-Royal, c'est une vingtaine de membres, à vocation patrimoniale. Il s'agit de gérer cette bibliothèque, les deux bibliothécaires, Valérie Guitienne et Fabien Vandermark,
et... d'en assurer l'avenir aussi.
Et d'en assurer l'avenir.
Alors, qu'est-ce que c'est l'avenir?
Alors, l'avenir, c'est évidemment de diffuser Port-Royal à quiconque s'y intéresse.
Alors, il y a Port-Royal des Champs, et puis il y a Port-Royal de Paris, qui est revenu sous l'aile de la monarchie beaucoup plus tôt que Port-Royal des Champs, le métro Port-Royal, la maternité. Vous avez pensé à transférer cette bibliothèque à Port-Royal?
Oui, alors il y a une sorte de... Il y avait deux justifications. Une première justification, c'est que Port-Royal de Paris, c'est ça qui est magique, il y a un lieu où tout est détruit et tout le monde y va, et il y a un lieu où tout est construit, qui est énorme, en plein Paris, boulevard de Port-Royal, évidemment, comme son nom l'indique. Eh bien, ce lieu-là, personne n'y va, personne n'en a connaissance, parce qu'il y a une sorte de sanction de l'histoire. C'était les traîtresses, celles qui avaient signé les formulaires, qui s'étaient soumises. Alors ça, le premier point, l'idée de redonner une visibilité à un site aussi énorme et finalement superbe, ça c'était une première justification. Puis la deuxième justification était beaucoup plus sentimentale. Il y avait l'idée, voilà, Port-Royal des Champs était détruit, Port-Royal de Paris existe, eh bien, si l'on faisait revenir les livres, là d'où ils étaient partis.
Alors ça c'est la rue Saint-Jacques, mais le site... de Port-Royal. Les granges, là où étaient les écoles, où habitaient les familiers. Le monastère en contrebas, qui n'est plus que ruine, mais où un lieu de mémoire a été établi par Augustin Cazier, où à son époque, un oratoire, par exemple, a été construit en 1891. Le site. Alors, dans quel état est-il en 1949? Reportage de la Radio Nationale.
À l'origine, avant la destruction de la fin du XVIIe siècle, le domaine était très étendu. Il comprenait d'importants bâtiments conventuels avec des terres et des bois très marécageux. Cette humidité constante fut d'ailleurs à l'origine de graves maladies qui décimèrent les sœurs de Port-Royal.
Je suis passé l'autre jour, par hasard, aux environs de Port-Royal des Champs et je m'y suis un peu attardé. Les souvenirs des jansénistes sont encore très vivaces dans cette partie de la vallée de Chevreuse. Les dernières sœurs de Milaïc qui étaient tolérées, ils sont mortes seulement il y a une trentaine d'années. Et ces descendantes des religieuses du XVIIe siècle, dont leurs adversaires disaient qu'elles étaient pures comme des anges et orgueilleuses comme des démons. Mais ce que j'ai constaté surtout, c'est que ces souvenirs de Port-Royal étaient menacés, menacés de s'y dissoudre, de s'y noyer littéralement presque, sous les eaux qui envahissent la propriété, et ces eaux qui frappent le toit du puits de Pascal et effacent les dernières traces du chemin de Racine. Tant dans le domaine des granges en haut que dans la vallée, au Colombier et auprès des petites chapelles. Les eaux attaquent même d'ailleurs par intermédiaire, si j'ose dire, les livres de la bibliothèque.
Tu vois, cette charme de Port-Royal des Champs, c'est un désert au sens qu'avait le mot au XVIIe siècle, humide, et c'est ça qu'il protège aussi d'une certaine manière de la trop grande curiosité d'un public trop nombreux, n'est-ce pas, Bernard Gazier?
Non.
Un petit musée d'État. Fort bien animé, le conservateur actuel c'est Philippe Lehaise, c'est constitué en haut, les granges, et vous, la Société de Port-Royal, vous aviez toujours les ruines en bas, l'oratoire néo-gothique, et dans un grand geste de réconciliation avec l'État, vous avez fait une donation?
Oui, on a petit à petit considéré que gérer un site de cette nature en le laissant couper en deux, alors que c'est déjà un site, vous l'avez dit, malheureusement confidentiel, bon, c'était complètement illisible pour les visiteurs et irrationnel. Il y avait en fait deux billetteries différentes et l'idée de réunifier les deux sites est apparue. C'était pas du tout pensable matériellement que la Société de Port-Royal, avec les moyens limités dont elle dispose, soit elle qui récupère tout. Donc la seule solution, c'était de faire la donation dans l'autre sens, afin que la mémoire de Port-Royal soit mieux entretenue, plus visible. Et alors, avec effectivement une logique un peu de réconciliation, parce que finalement, l'État... Ah, si c'est l'État de Louis XIV, c'est un État qui a évidemment été très négatif pour Port-Royal. Et on s'est dit, il a fallu toute une introspection, c'est-à-dire, mais dans le fond, comme une partie de l'esprit port-royaliste s'est retrouvée dans l'esprit républicain, après tout, cet État républicain, c'est le nôtre, bien sûr, et finalement, il n'y a pas de contresens à faire que ce soit l'État qui soit en charge du haut et du bas, comme on dit, donc le haut, les granges, et le bas, l'abbaye.
Donc 15 ans après cette donation, vous êtes parfaitement récompensé. Parce que une initiative fait son chemin. Au Alors, ministère de la Culture.
Je sens venir une ironie un petit peu pascalienne dans la formule. L'État, actuellement, a un projet que nous trouvons néfaste. Je le dis aussi simplement et platement, vous l'avez évoqué un petit peu en introduction de l'émission, l'État, à des fins de rationalisation, souhaiterait que ce tout petit musée qui est jugé irrationnel, trop coûteux, etc.
Enfin, il y a quand même 20 000 visiteurs, il y a tout un public scolaire, enfin, je prends les précautions nécessaires pour me faire entendre des techniciens du ministère de la Culture. L'État donc?
Oui, l'État, eh bien, voudrait rationaliser en faisant que la gestion de Port-Royal soit désormais réunie avec celle de effectivement, Versailles. Alors, Versailles, c'est dur pour deux raisons. La première raison, qui est la plus simple, c'est de dire, écoutez, bon, voilà, c'est depuis Versailles que Louis XIV a ordonné de raser Port-Royal, donc c'est quand même un peu violent, sur le plan de la mémoire directe, historique. Mais le contresens est plus profond, parce que Versailles, à tort ou à raison, même si c'est parfois les ors de la République, hein, ce genre de choses, Versailles s'est assimilé à l'absolutisme. Or, précisément, tout Port-Royal, c'est l'esprit qui est opposé à l'absolutisme. Alors, l'enjeu porte un nom aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle exactement un enjeu mémoriel. Je sais que notre président a un conseiller mémoriel à l'Élysée, et j'espère qu'il sera attentif à ne pas faire un contresens mémoriel dans ce domaine très sensible et, à mon avis, important pour l'identité française, ce domaine qui est Port-Royal.
Parce que, pour vous, c'est un lieu essentiel de l'histoire française, Port-Royal.
Oui, c'est une partie de l'identité du pays. Finalement, il y a, par exemple, si vous prenez Corneille et Racine, bon, ben Corneille, c'est plutôt le côté jésuite, le côté héroïque, etc. Et Racine, c'est le côté Port-Royal. Eh bien, ces deux côtés sont les deux facettes, finalement, de l'âge classique. Et cette indépendance d'esprit, qui effectivement aussi, hein, entre libre-pensée religieuse ou libre-pensée anti-religieuse, mais très caractéristique de l'esprit français.
Le sort qui sera fait à Port-Royal, ça sera aussi révélateur de la politique à venir sur les musées. Ne sont-ils que des lieux d'entrepreneuriat culturel ?
Effectivement, il y a cet enjeu-là. C'est d'autant plus important que l'on peut remarquer que Port-Royal, actuellement, Port-Royal des Champs, est un des lieux où l'exercice de ce que doit faire un musée est poussé dans toutes les directions. Des expositions tout à fait érudites, un lieu vert et surtout un lieu d'accueil et d'intégration. Il y a cette politique qui s'appelle aujourd'hui « C'est mon patrimoine », les portes du temps, voilà. Et c'est une politique d'accueil, en fait, de jeunes issus des quartiers défavorisés, de Trappes, des Yvelines et maintenant même d'ailleurs. Et ces jeunes viennent par milliers à Port-Royal. Autrement dit, Port-Royal fait déjà tout ce que demande la ministre de la Culture et... C'est difficile de ne pas voir dans le fait de rapprocher à Versailles un manque d'intérêt vis-à-vis de tous ces efforts.
Mais Port-Royal n'avait pas besoin de Madame Nissen pour retrouver la tradition des petites écoles que Racine a fréquentées et qu'animaient les solitaires qui étaient en fait très ouverts sur le monde, comme vous, malgré le passé de la famille Gazier. Bernard Gazier, président de la Société de Port-Royal, était le témoin ce jour. L'émission était préparée avec des reportages signés par lui, par Franck Olivard, Audrey Ripouille à la réalisation, Clément Vuillet à la technique.